Salut cher Z. Quand je serai grand, on fait sa rentrée scolaire, comme les 5 millions de collégiens et lycéens français. Après une première saison de 15 épisodes, on reprend nos bonnes habitudes. Chaque mercredi, un échange entre un ado et un professionnel pour découvrir un métier. D'ailleurs, si tu as entre 13 et 18 ans et que tu veux participer, n'hésite pas à nous contacter. Quand je serai grand, les Français sont accros au manga, ces BD en noir et blanc qui se lisent de droite à gauche. Notre pays est le deuxième consommateur au monde, derrière le Japon, d'où est originaire ce format de livre né à la fin du 19e siècle. Andrew est un lecteur assidu. Alors qu'il vient de rentrer en seconde, il s'imagine bien mangaka. D'ailleurs, il a déjà inventé quelques histoires et dessiné des planches, le terme technique pour désigner une page. Dans cet épisode, il interroge Christophe, auteur de la série manga Tintaren, parue aux éditions Glénat en 2018. Après 4 tomes, il se consacre à un nouveau projet intitulé Windfighters. Un échange entre deux passionnés que je vous laisse découvrir tout de suite.
Je suis sûr qu'on va vivre des aventures fantastiques.
Eh bien bonjour, bonjour jeune homme.
Bonjour, je m'appelle Andrew et je vais vous poser quelques questions sur votre métier du coup.
Eh bien enchanté Andrew, je suis prêt à répondre à tes questions.
Donc, pour commencer, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier ?
Eh bien, en fait, je dessine depuis toujours, donc j'ai pas vraiment choisi ce métier. Ça a été naturel pour moi de passer du rêve à la réalité en vivant du dessin et du manga. J'ai toujours dessiné, donc depuis tout petit. Voilà, c'est une passion qui s'est transformée en métier. J'ai pas vraiment réfléchi, hein, c'était au fond de mon cœur et j'ai foncé, quoi. J'y suis allé.
D'accord. Quel a été votre parcours ?
Eh bien, j'ai eu un bac ES, et puis après le lycée, je suis allé à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême pendant un an. Donc une école de dessin, bande dessinée, mais bon, c'était une grosse déception pour moi au final. J'y ai pas trouvé l'enseignement que j'attendais, mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer pas mal de jeunes qui avaient un niveau de dingue en fait, donc ça m'a beaucoup poussé. Et puis après ça, les petits aléas de la vie m'ont amené à faire un métier entre guillemets classique. Donc j'ai été agent des impôts à Paris pendant 3 ans, donc dans l'administration, métro, boulot, dodo, voilà, une vie totalement différente d'aujourd'hui, j'ai du mal à y croire d'ailleurs que j'ai fait ça. Et puis voilà, après il y a eu un jour où je me suis dit stop, j'irai plus jamais au bureau, c'est plus possible, parce que mon rêve en fait de faire du manga s'éloigne. Donc voilà, j'ai arrêté le métro, boulot, dodo, et puis je me suis concentré sur mes pages, et de fil en aiguille, j'ai sorti diverses histoires jusqu'à arriver à être édité.
Qu'est-ce qui vous motive à continuer du coup ?
Qu'est-ce qui me motive à continuer ? C'est de raconter une histoire. Je crois que c'est vraiment ça. Au-delà du dessin, en fait, le dessin, c'est évidemment, c'est ce qu'on voit. C'est la partie visible du livre, d'un manga ou d'une bande dessinée, peu importe. Mais c'est vraiment l'histoire et les personnages. Ce que je peux raconter au travers de mes personnages, c'est ça qui me motive, en fait. Voilà, tout ce que je ressens, c'est un peu comme une cour de récré, quoi. C'est un exutoire. C'est quelque chose. C'est un moyen d'expression fabuleux, en fait. Et voilà, s'exprimer au travers du manga, moi, c'est quelque chose qui me motive tout le temps. Et la motivation, elle va en grandissant, tu vois. Elle va toujours en grandissant malgré les années qui passent. C'est, voilà, le fait de pouvoir raconter des histoires et m'exprimer.
Donc, comment s'organisent vos journées ?
Très classique, hein, au final. Bon, même si c'est pas un métier classique, on peut se cadrer de manière classique. C'est très très important. Donc je travaille le matin à partir de 8h, 9h, ça dépend. En fait, ça va dépendre de l'heure à laquelle je me suis couché. Parce que des fois, le travail m'emmène jusque tard dans la nuit. Et donc j'ai besoin d'un peu de repos. Mais sinon, non, c'est très classique. Je travaille le matin, j'ai ma petite pause à midi. Je renchaîne l'après-midi. En général, en fin d'après-midi, genre à cette heure-là, parce que là, il est 18h. Et qu'il fait beau, en général, je vais faire du sport. J'ai besoin tous les jours de faire du sport, courir. Faire de la muscule, etc. Ça fait du bien parce que sinon, en fait, on est toujours assis, tu vois. Toujours assis, penché sur sa feuille ou là, en l'occurrence, sur sa tablette. Et j'ai vraiment besoin de ça, quoi. Le sport, ça fait du bien physiquement et mentalement. Ça donne beaucoup d'idées. À chaque fois, ça me rafraîchit les idées aussi. Et quand je reviens à ma table de travail, je suis au taquet, quoi. Donc voilà, globalement, je me suis trouvé un rythme assez classique et finalement, c'est le rythme qui fonctionne le mieux. Parce que dans des métiers comme ça, on peut vite partir, tu sais, complètement en freestyle, vu qu'il n'y a pas de limite, quoi. Au final, tu peux travailler la nuit, le jour. Mais le meilleur rythme, pour moi, c'est vraiment le classique, quoi. Au final, se lever le matin, avoir des horaires presque de bureau, entre guillemets. Et puis, c'est comme ça que ça avance vraiment bien, que les pages avancent vraiment bien.
D'accord. Donc, selon vous, quelles sont les qualifications pour être mangaka ?
En 1, faut aimer raconter des histoires. En 2, aimer dessiner, vraiment, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de dessins. Je sais pas si t'as déjà tenté de faire des mangas ou si tu t'y es mis un petit peu, mais c'est beaucoup, beaucoup de dessins. Donc, c'est quand même des formats de 200 pages. Donc ça, il faut y penser aussi. Puis après, voilà, moi, je pense que le plus important, c'est de s'amuser, toujours. Et, comment dirais-je, être authentique. Vraiment, être ce que tu es toi, pas copier les autres. Voilà, avec tes qualités, tes défauts, exprimer ce que tu veux exprimer, dessiner de la manière dont tu as envie de dessiner, et c'est en te faisant plaisir que tu vas bien avancer. Et puis voilà, au-delà de cette dimension d'amusement, il faut quand même aussi savoir se cadrer, ce que je disais tout à l'heure, pour que le travail avance, parce que c'est beaucoup de travail, et puis être persévérant, parce qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter, comme dans un shonen, tu vois, vraiment, on part du bas, et puis on va affronter toutes les difficultés pour atteindre ses rêves. Donc il y a cette dimension de ténacité aussi qu'il faut avoir. Mais ce qui est génial, c'est de se dire que c'est possible. Aujourd'hui, en France, c'est possible de vivre de ce métier-là. Et ça, rien que ça, ça doit te motiver, quoi, normalement. Rien que ça, c'est bon.
Donc, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier ?
Je dirais le découragement, c'est la première des difficultés. Le découragement parce que tu te sens pas assez bon, parce que les autres sont meilleurs que toi, parce que les éditeurs sont trop durs à approcher, parce que tu sais pas comment faire pour faire aboutir tes projets, comment construire un dossier éditorial, voilà. Le découragement, pour le surmonter, il faut travailler, il faut de l'enthousiasme et il faut aimer apprendre. Et aujourd'hui, il y a une chance énorme, c'est qu'il y a Internet. Enfin, moi, quand j'avais ton âge, je sais pas, t'as quel âge, 15-16 ans peut-être ? Quand j'avais ton âge, donc il y a presque 20 ans, il y a une bonne quinzaine d'années, on n'avait pas accès à toutes ces informations sur Internet. Aujourd'hui, tu sais comment constituer un dossier éditorial, plus ou moins. Tous les dessinateurs quasiment partagent leur travail sur Instagram, sur Twitter. En plus, à l'international, donc tu peux suivre absolument tout le monde. Donc t'as plein d'astuces, t'as plein de conseils techniques. Enfin voilà, tu peux vraiment apprendre énormément de choses grâce à Internet. Donc ça doit aider à surmonter le découragement. La deuxième difficulté, c'est ensuite, une fois que t'as réussi à être édité, et c'est ça le plus dur, c'est de continuer. C'est comme une course d'endurance, tu vois. Pour continuer, il faut vraiment sortir ses chapitres. C'est des métiers qui sont... financièrement, t'es pas salarié, donc t'as pas de salaire, en fait, qui tombe à la fin du mois. Donc c'est des métiers instables, entre guillemets, financièrement. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, en fait, il faut travailler. C'est comme si t'étais à ton compte, tu vois. Faut avoir des contrats, faut carburer, quoi. Donc ça, c'est une dimension à prendre en compte aussi. Si t'es plutôt en mode relax, je veux mon salaire à la fin du mois et pas me poser de questions, ce métier-là, c'est pas possible. Je compare souvent ça à un métier sportif, en fait. Tu vois, c'est un peu comme un sportif professionnel, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là où il faut toujours être dans le feu pour avoir des bons résultats et gagner de l'argent, hein, tout simplement, et pouvoir en vivre. Et si tu tombes du ring, là, c'est compliqué et il faut se battre pour remonter. C'est vraiment, pour moi, très, très similaire, l'art et le sport, hein. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est des métiers dans le fonctionnement assez similaire, en fait. Des métiers où tu es en autonomie, quoi.
Dans tout ça, quel est le rôle de l'éditeur ?
En fait, le rôle de l'éditeur, c'est de réceptionner les projets et de les transformer en livres finis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de faire que ton projet, il arrive en librairie. En gros, c'est ça. Et aussi, son rôle, c'est de te payer. C'est, entre guillemets, ton employeur, même si c'est pas exactement ça, parce qu'on n'est pas salarié, c'est vraiment, on est plus collaborateur, tu vois. Mais il te donne l'argent pour pouvoir vivre le temps de faire ton tome. Moi, je signe un contrat par tome, donc à chaque fois que j'ai fini un tome, je re-signe un contrat pour le tome suivant avec une somme d'argent et une date de rendu des planches. Donc voilà, l'éditeur, c'est vraiment mon interlocuteur privilégié. C'est celui qui fait vivre ta série aussi à travers la communication, même si aujourd'hui, on peut le faire nous-mêmes sur les réseaux. Mais voilà, c'est lui qui va te placer en festival. C'est lui qui va créer des événements autour de ta série, etc. Donc, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je dois aller à Paris pour enregistrer une émission dans le cadre de Japan Expo, parce que cette année, Japan Expo, c'est en virtuel, hein, comme la plupart des festivals. Mais voilà, l'éditeur, très concrètement, tu vois, il m'a envoyé les billets de train avec les horaires, etc. Tout est organisé, donc voilà, c'est de la promotion. Il y a tout ça, tu vois. Il y a un rôle à la fois au niveau de tes projets pour savoir si tu vas dans la bonne direction, pour essayer de t'aiguiller un petit peu en termes de scénario, etc. Et puis, tu as toute cette dimension promotion, quoi. C'est vraiment un circuit complet.
Comment se déroule la publication des planches ?
C'est-à-dire, comment elle se déroule ? Parce que ça, après, c'est plus mon métier, c'est l'imprimeur, en fait. Globalement, c'est l'éditeur qui transmet les planches finies. Donc, on doit déjà valider les planches finies sur PDF, en fait, à l'ordi. Tu relis, en fait, le tome en version PDF. Et ensuite, c'est transmis à un imprimeur qui est situé je ne sais plus où. Enfin, c'est écrit à la fin des livres. Si tu regardes à chaque fois la dernière page des mangas, t'as écrit imprimé à telle date et à tel endroit. Donc, mais tout ça, après, c'est vraiment plus du tout dans mon métier. Tu vois, c'est l'imprimeur, ensuite le distributeur qui transmet tout ça aux librairies, aux espaces culturels, etc., aux grandes surfaces.
Donc, vous travaillez combien d'heures par semaine environ ?
Probablement une soixantaine, voire plus. Après, tu vois, moi, je compte pas en heures, mais je compte en termes de pages, en fait. Je préfère me dire, je travaille tant de pages par semaine, en fait. Donc, les heures, à la limite, je sais pas, ça peut varier, mais j'aime bien qu'à la fin de la semaine, il y ait genre 8 ou 10 pages de terminées. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je compte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail où on a plus d'heures, entre guillemets, que... qu'un travail classique, on n'est pas à 35 heures par semaine, par exemple. C'est pas le même cadre du tout, tu vois. Et puis finalement, moi, je considère pas ça comme des heures de travail, en fait. C'est des heures où je fais mes pages, où je fais avancer mon œuvre et je compte pas mon temps, tu vois. Mais oui, c'est plus d'heures qu'un métier classique, ça, c'est sûr.
D'accord. Donc, vous trouvez que vous avez beaucoup de restrictions ou que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ?
Plus j'avance et plus je suis libre, en fait. Plus j'ai, entre guillemets, fait mes preuves. C'est-à-dire que j'ai de l'expérience de plus en plus. Parce que j'ai déjà fait une série chez Glénat, là, j'en suis, qui s'appelle Tintaren.
Tintaren, un manga des éditions Glénat.
Là, j'en suis à ma deuxième, qui s'appelle Wind Fighters. Et au début, c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais assez cadré. Puis en même temps, moi, j'avais beaucoup besoin de demander est-ce que c'est bien, est-ce que ça va. Enfin, voilà, tu sais, quand t'as pas d'expérience, t'as l'impression d'être super maladroit et tu veux tellement faire les choses bien que tu te prends la tête, mais de ouf, quoi, en fait. Et au final, voilà, maintenant, le temps a passé. J'en suis au troisième tome presque fini de ma deuxième série chez Glénat. Donc, on se connaît bien, l'éditeur et moi. Puis disons que j'ai pris un petit peu. J'ai pris les devants, quoi. Maintenant, je suis plus libre et j'impose un petit peu mes choix, etc., même si mon éditeur a toujours un droit de regard. Mais il me laisse beaucoup plus libre aussi. Globalement, il surveille pas tous les textes, toutes les cases, tu vois ce que je veux dire. Il sait globalement où va l'histoire. Et après, je fais ce que je veux, quoi. Je passe mes journées en autonomie à travailler. Et puis voilà, quoi. Il y a moins de suivi, si tu veux. Le suivi est moins régulier et tout, parce que, voilà, je suis un grand garçon maintenant. Donc, c'est pour ça, tout simplement. Mais c'est comme dans tous les métiers. Quand t'as de l'expérience, t'es plus autonome, et puis tu peux aller de l'avant plus facilement.
Quel matériel vous pourriez conseiller pour débuter le dessin quand on n'a pas beaucoup de budget ?
Quand t'as pas beaucoup de budget, tu sais, le matériel scolaire, c'est-à-dire des feuilles A4, des crayons de papier, des feutres noirs pour l'ancrage, c'est très bien. Après, comme c'est du manga, il faut quand même avoir un trait manga, donc la plume, c'est essentiel. Tu peux trouver des plumes pas chères aujourd'hui, ça se trouve assez facilement. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, le matériel de base, enfin, regarde, tu vois, moi, pour mes storyboards, par exemple, c'est-à-dire la version croquis de l'histoire, tu vois, c'est toujours des feuilles A4 avec des stylos Bic. Donc, rien qu'avec ça, déjà, tu peux commencer à raconter une histoire. Et puis, après, au niveau du matériel, il faut pas te restreindre, en fait. Moi, j'ai testé vraiment tous les matériaux, et même actuellement, tu vois, depuis quelques mois, je suis passé... C'est pour ça que je regarde vers le bas, parce que j'ai ma tablette, en fait, sous les yeux, je suis passé en full numérique, c'est-à-dire que j'ai abandonné le papier et je suis sur tablette maintenant, sur un logiciel dédié, etc. Mais avant ça, j'ai fait plein de pages en papier, à la plume, j'ai testé avant ça le pinceau, avant ça les feutres. Voilà, essaye d'être curieux de tout, regarde sur internet, matériel, manga, etc., regarde des tutoriels. Mais dis-toi que déjà de base, avec le matériel scolaire classique, tu peux déjà... raconter une histoire, écrire, dessiner des ébauches de cases, voilà, dessiner des croquis, des recherches de personnages, voilà. Et plus tu vas tester de matériel différent, plus tu vas trouver celui que tu préfères, celui qui est le mieux adapté à ta manière de raconter des histoires, et t'auras pas à te prendre la tête à savoir qui utilise quoi. Non, c'est ce qui te convient à toi et basta. En fait, il faut pas se restreindre, c'est ça que je veux te dire. Faut pas se restreindre, faut essayer de tout tester, quoi, vraiment, pas s'imposer de limites.
D'accord. Donc, est-ce que vous trouvez que votre travail est lassant avec le temps ?
Bon, alors comme dans tous les métiers, encore une fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On va pas se cacher, hein. On va pas se leurrer. Il y a des jours où t'as une énergie de dingue, où tu te sens le meilleur du monde, où tu sais que tu te dis putain, je suis trop fort, je suis un génie, quoi. Et il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a rien qui va. Mais bon, pour lutter contre ces hauts et ces bas, tu vois, il faut vraiment de la discipline et se cadrer dans les horaires. Donc à partir de là, est-ce que c'est lassant? Pour moi, non, parce que c'est ce que j'ai vraiment voulu et j'ai traversé beaucoup de difficultés pour la voix. Donc en fait, quand je me lasse, entre guillemets, je me rappelle un petit peu des galères que j'ai traversées et ça me redonne de l'énergie pour aller de l'avant, quoi. Tu vois, vraiment, je me dis non, mais c'est pas possible de me lasser, quoi. Là, c'est allez, mets-toi un coup de pied aux fesses et puis vas-y, quoi. Donc la lassitude, non, elle reste jamais très longtemps. Ça peut arriver effectivement d'avoir des petits coups de mou, mais non, elle reste jamais très longtemps. Je suis toujours pressé en fait de faire la page suivante et de faire avancer l'histoire.
D'accord. Est-ce que vous auriez des conseils pour progresser en dessin?
Eh bien, de dessiner, tout simplement. On est tous logés à la même enseigne, Andrew. C'est-à-dire qu'on est tous à chaque fois devant une feuille blanche. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Il faut pratiquer. Et on apprend tout au long de notre vie. Donc tu vois, moi je suis comme toi, j'ai quelques années de plus et donc quelques années de pratique en plus. Mais je suis pareil, toujours à me dire comment je pourrais faire ça mieux, comment représenter ça, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, les décors, les véhicules, je sais pas, tu vois, des designs de personnages, voilà, des situations. Il y a toujours un truc qui va te faire sortir de ta zone de confort et qui va te faire progresser en dessin. Et sinon, basiquement, pour vraiment apprendre à dessiner, pour acquérir en tout cas une bonne base, il faut faire du dessin d'observation. Donc dessin d'observation, bah, tu prends un carnet de croquis et puis tu sors, tu te promènes ou tu restes chez toi et tu dessines tout ce qui passe sous tes yeux. Mais tu essayes de le représenter tel que tu le vois et pas tel que ce serait dans une case de manga ou de BD, tu vois. C'est vraiment du dessin académique, du dessin sérieux, entre guillemets. Et ça te fait progresser de ouf. Bah, parce que ça te donne une rigueur, ça t'apprend la perspective, ça t'apprend les proportions, les attitudes, ce genre de choses. Enfin bref, c'est de la pratique qui fait que tu vas apprendre plein de choses et tu le sentiras vraiment rapidement, en fait. Rapidement dans ta main, dans ton œil, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu progresses en dessin. Et ça coûte rien, tu vois. Un petit carnet tout simple, un stylo et hop, c'est parti.
D'accord. Donc voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben, j'ai été ravi de répondre à tes questions, en espérant que ça puisse être utile.
Oui, merci.
Mais de rien.
Merci, c'était très intéressant. Andrew, qu'est-ce que tu as appris de cet échange par rapport à toi, ce que tu connaissais peut-être de ce métier-là ou l'image que tu en avais ?
Bah, je le trouve encore plus intéressant déjà et ça m'a permis déjà de voir au niveau des études qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à ce métier et aussi comment progresser en dessin justement.
Toi, t'en fais beaucoup du dessin? Tu peux nous raconter un petit peu?
J'ai toujours dessiné, moi aussi, ça fait depuis la primaire que je dessine. Après, vers la cinquième, j'ai commencé vraiment sérieusement à dessiner. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir plus de matériel et plus de moyens pour travailler dessus.
T'as déjà écrit des histoires ?
Oui, j'ai déjà essayé d'en écrire quelques-unes.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ?
Pour moi, le plus difficile, c'était refaire les planches en grand. C'était le plus compliqué.
Ça, c'est parce que tu fais des storyboards trop détaillés. Et si tu fais des croquis trop détaillés, après, c'est galère pour repasser sur le grand format. Quand on fait des croquis juste pour raconter une histoire, pour faire un storyboard, il faut pas bien dessiner. Il faut que ce soit vite lâché et le beau dessin, il doit venir sur la planche finale. Donc ça, c'est aussi une gymnastique à acquérir. Faut pas chercher à bien dessiner tout de suite. Faut vraiment placer les traits principaux, les idées. Et cette difficulté-là, du coup, elle disparaîtra en fait. La difficulté que tu ressens à bien redessiner en grand.
D'accord.
Pour terminer, peut-être, qu'est-ce que vous conseilleriez à Andrew, là, tout de suite, qui est encore qu'en troisième, c'est ça? Là, tu viens de passer ton brevet. Donc ensuite, c'est le lycée classique. Vous disiez tout à l'heure que les Beaux-Arts, ça n'avait pas été forcément la réponse à vos attentes. Est-ce que vous le conseilleriez quand même à Andrew ou de faire autre chose?
Alors, bon, déjà de réussir son lycée, déjà, parce que c'est quand même très très important. Hein. C'est classique de dire ça, mais quand même, voilà, le lycée c'est bien, c'est important d'acquérir cette base avec le bac, base générale, enfin voilà, qui pourra de toute façon te servir par la suite. Et après, tous les jeunes qui me posent des questions, je leur conseille quand même d'essayer d'aller en école d'art, parce que faute de mieux, bah, c'est toujours ça de pris, c'est quand même une école où on est censé dessiner. Mais disons qu'il faut pas trop en attendre. En fait, c'est ça. L'erreur qu'on fait souvent, c'est d'avoir trop d'attentes, de projeter trop d'attentes sur autre chose, sur d'autres gens, alors que c'est des métiers hyper solitaires, entre guillemets, où finalement personne te tient par la main et où c'est toi qui as la réponse à toutes tes questions, c'est toi qui as la solution à tous tes problèmes. Et ça, aucune école peut te l'apprendre. Tu vois, c'est pas un diplôme accroché au mur devant toi qui te fera avoir des contrats éditoriaux, clairement. Donc, le conseil, c'est d'aller au lycée. Et après, si t'es dans le vague, eh ben, tente une école d'art. Vois s'il y en a qui sont spécialisés manga. Je sais qu'il y en a une à Toulouse. Apparemment, elle est pas mal. Le IMA, ça s'appelle. Mais sinon, tu vois, moi, j'ai pas de diplôme d'école d'art, j'ai rien du tout. La plupart de mes collègues non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu ne réussis pas à aller en école d'art ni rien, ça ne t'empêche pas du tout d'être mangaka parce que c'est avant tout ce que tu seras capable de raconter, toi. Mais voilà, encore une fois, une école d'art, ça peut être une option intéressante pour ne serait-ce qu'un an ou deux. Moi, je sais que ça m'a quand même apporté pas mal de choses. C'est pas les profs qui m'ont apporté, c'est vraiment plus les élèves, en fait. C'est vraiment ce côté-là. Puis c'est le fait de sortir de chez moi, de vivre seul, dans une nouvelle ville à 300 km de chez moi. Enfin, tu vois, c'était un sacré apprentissage de vie, quoi. Donc voilà. La vie n'est pas tracée à l'avance, c'est une aventure, faut la tenter, faut pas trop te prendre la tête. Va là où t'es attiré, quoi, là où ça te plaît en fait, tout simplement.
Il existe une trentaine de mangaka en France, mais ce métier est appelé à se développer puisque les lecteurs et lectrices de manga sont de plus en plus nombreux. Si cet épisode t'a donné envie, n'hésite pas à suivre les conseils de Christophe et dessine pour t'entraîner au maximum. Quand je serai grand, reviens la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, tu peux en parler autour de toi et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit avis positif. Merci.